Bon, alors, que je m'explique sur ce titre mystérieux que même les auteurs eux-mêmes n'ont pas réussi à élucider, puisque Claro me disait « Mais de quoi va-t-on parler ?» En fait, ce qui vous relie tous les trois, et que j'ai eu envie de qualifier de temps moderne, parce que c'est moi qui ai proposé ce titre, c'est quelque chose qui a à voir avec l'époque du libéralisme, je cite cette cruelle guignolade qui absorbe toutes les critiques qu'on lui adresse, quelque chose qui a à voir avec ce monde où des stripteaseuses se jouent des mâles voyeurs, et de ce monde où on peut faire de chaque minute du temps qui passe un sujet de chronique. Voilà, donc chacun d'entre vous aura reconnu une phrase ou une idée qui lui appartient, mais qui aurait pu éventuellement être partagée avec les deux autres. C'est ce qu'on va voir. Je commence quand même par faire des petites présentations. Claro, vous êtes écrivain, traducteur et également éditeur. Votre premier roman, Ezelina, est paru chez Arléa en 1986. Et votre première traduction, à peu près à la même époque, il s'agissait de Kilomètre Zéro de Thomas Sanchez. Depuis, vous avez toujours mené en parallèle écriture et traduction. Donc vous publiez des romans, des récits et des essais. Je cite quelques titres. Chair électrique chez Vertical en 2003. Plonger les mains dans l'acide aux éditions Inculte en 2011 et Tous les diamants du ciel chez Actes Sud en 2012. Et puis donc vous traduisez des écrivains anglophones parmi lesquels Thomas Pynchon ou bien Salman Rushdie. Depuis 2004, vous êtes co-directeur de la collection de fiction américaine Lot 49 qui est accueillie aux éditions du Cherche Midi. Et votre dernier roman chez Actes Sud s'intitule « Crash Test ». Alexis Génie, romancier, vous avez longtemps enseigné les sciences naturelles. Enfin, je ne sais pas, c'est une vieille appellation, ça. On dit plus.
C'est très bien comme ça.
C'est bien, sciences naturelles. Bon, d'accord, moi j'appelle ça comme ça. À Lyon, qui est la ville où vous vivez et vous écrivez, vous avez donc une formation scientifique, mais c'est la littérature qui vous occupe maintenant depuis pas mal d'années. Votre premier roman, L'art français de la guerre, paru chez Gallimard, a eu le prix Goncourt. C'était en 2011. Depuis, vous avez fait paraître Élucidation, 50 anecdotes, toujours chez Gallimard en 2013. Et votre dernier roman s'intitule La nuit de Wallenham. On prononce comme ça Wallenham ?
Non, plutôt avec un ou wallon. Wallenham.
Wallenham, voilà. D'accord. Oui, je me dis, j'étais sûre qu'il y avait un petit. Donc, La nuit de Wallenham. Et c'est donc toujours chez Gallimard, ça vient de paraître cette année. Et puis Pierre-André Milite, né en Valais, vous avez exercé de très nombreuses activités, donc je ne vais pas toutes les citer. Vous êtes travailleur social et vous avez notamment publié L'inventaire des lunes en 2010, Le garde-barrière dit que l'amour arrive à l'heure en 2013.
La garde-barrière.
C'est la garde-barrière. Ah, ah ben ça change tout ça, voilà, d'accord. Bon alors c'est la garde-barrière. Et puis votre dernier livre, 1440 minutes, est publié chez le même éditeur. J'ai envie de commencer avec vous Alexis Génie, et pour planter le décor de votre roman, dire que ça se situe dans une ville industrielle du nord de la France. Une ville dont on sait à peine qu'elle existe, les mines y ont été fermées, le haut fourneau a été abandonné, et cette ancienne ville industrielle, au fond, apparaît assez vite comme une sorte d'exemple de la France qui se délite. Voilà, on peut planter le décor comme ça ?
Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est une sorte, enfin c'est une ville, bon, imaginaire qui est faite de morceaux réels. C'est une scène de théâtre. En fait, c'est une vaste scène de théâtre où vont se dérouler des tas d'événements, d'apparitions, de machinerie et de machination, pour essayer de comprendre ce que c'est que la France contemporaine, avec son obsession du déclin, son obsession de la désindustrialisation, de la crise, et sa fascination pour des solutions radicales qui sont à la fois néolibérales, sécuritaires, voilà. Alors, pour faire un roman, il faut un lieu et il faut une scène. Donc finalement, j'ai fait le choix d'inventer cette ville qui permet de rassembler des tas de choses, puis une ville totalement imaginaire parce que j'ai fait aussi un choix non réaliste. C'est une sorte de théâtre baroque. C'est totalement irréaliste dans les faits, mais totalement et très précisément réaliste dans les idées qui s'affrontent et dans l'analyse de ces idées. C'est-à-dire que pour essayer de réfléchir un petit peu sur les temps modernes, sur, en effet, sur cette espèce de dérive néolibérale inquiétante qui fait que on, sous prétexte de donner de la liberté, on détruit pierre à pierre ce qui a été construit pendant 2 siècles, pour essayer de faire voir ça, il faut une scène de théâtre. Parce que je ne suis pas un essayiste, j'en ai ni les capacités, ni le désir, ni l'envie. Donc, il faut trouver un moyen de créer des figures qui vont agir toutes ces idées. Parce qu'en plus, essayer de décrire ce genre de choses d'une façon très réaliste, ça aurait fait un roman sociologique. J'aurais pu imaginer d'expliquer la dure condition, les dures conditions de vie dans la grande banlieue de Valenciennes. Ça n'intéresse personne. Parce que de toute façon, la misère n'intéresse personne. Ni ceux qui y sont, qui en ont marre de cette misère-là, et bon, ni ceux qui n'y sont pas encore, qui ont bien trop peur pour la regarder. Donc, c'est un décalage. C'est un décalage théâtral, comme disait le grand dramaturge, c'est un effet de distanciation. Et aussi une possibilité de grande liberté, c'est-à-dire de faire advenir n'importe quoi sur cette scène. Et là, c'est un grand bonheur romanesque.
Alors, au cœur de cette scène que vous orchestrez, dans des registres d'écriture très très intéressants sur lesquels on va venir, vous mettez un personnage que l'on suit et qui est un journaliste pigiste qui travaille pour un site comme voilà, maintenant de plus en plus de journaux sont effectivement des journaux en ligne, et donc ce journaliste pigiste débarque un peu par hasard sur une sorte de coup de tête dans ce non-lieu, et il entreprend de décrire au fond des chroniques de ce qu'il appelle la France qui s'effiloche, ce que je trouve assez joli. C'est vrai que votre premier roman s'appelait L'art français de la guerre, mais là c'est un peu une sorte d'art français d'une guerre économique au fond que vous avez écrit.
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que en le commençant, je m'étais dit tiens, après avoir fait cette espèce de vacillement identitaire de la France par rapport à son histoire, qui avait des conséquences extrêmement concrètes, qui étaient les troubles sociaux, les troubles de banlieue, l'impossibilité à surmonter la question ethnique, etc. Après avoir raconté ça, je me disais bah finalement l'autre grand dépôt contemporaine, celle de l'économie, c'est cette espèce de guerre économique assez terrifiante qui est en train de se livrer, dans laquelle on maîtrise pas grand chose, et qui met en jeu à la fois de la pensée, de la violence, des gens, des désirs. Enfin voilà, pour moi c'était l'économie était une grande épopée. Et du coup faire un gros roman agité à partir de ça, ça me paraissait tout à fait convenir, même s'il faut quand même une légère torsion pour passer de la presse économique au ton de l'épopée.
Alors le maire de cette commune, qui est un lieu un peu fantomatique, a une idée quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'il décrète que, au fond, la pauvreté devient la véritable richesse de cette ville où il ne se passe absolument plus rien.
Bah ouais. Alors c'est vrai que bon là, les grandes villes du Nord sont très peuplées. Le Nord est une région extrêmement peuplée avec des tas de gens qui sont historiquement, enfin pour des raisons historiques, peu diplômés, peu formés, parce que pendant des générations ils ont travaillé dans l'usine qui était de l'autre côté de la rue. Donc bon, maintenant l'usine disparaît, ils restent là, ils sont là, voilà. C'est que faire de cette masse humaine. Or il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que la pauvreté est une richesse. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez sûrement entendu dans la presse, le coût du travail est beaucoup trop important en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire, le coût du travail trop important ? Ça veut dire que les pauvres ne sont pas assez pauvres. Si on les payait moins, ça permettrait de s'industrialiser. Sur quoi est basée la richesse de la Chine? Sur quoi est basée la richesse montante de l'Inde? Sur quoi est basée, sont basées les ressources du Pakistan? Sur une masse innombrable, et quand je dis innombrable, c'est au sens propre, c'est-à-dire on sait beaucoup, mais on ne sait pas combien il y en a, mais il y en a toujours beaucoup, suffisamment, de gens qui vont travailler pour rien. C'est-à-dire que quand on ne paye pas les gens, eh bien on crée de la richesse. On va pouvoir créer des produits, des productions qui sont moins chères. Donc finalement, si on pousse cette logique jusqu'au bout, si on crée des morceaux de Chine ou des morceaux de Pakistan au cœur de la France, il n'y aura pas besoin de délocaliser. Il suffira de faire travailler sur place des gens pauvres qu'on ne payera pas. La logique du coût du travail est trop important, si on la pousse un petit peu au bout, nous amène à ça. L'idéal, c'est le travailleur chinois. Et encore le travailleur chinois, même pas le travailleur chinois en place, c'est le paysan pauvre chinois qui vient en ville et qui est capable de travailler, qui va accepter de travailler pour rien. Et d'ailleurs, l'inquiétude actuelle de la Chine, c'est que dans l'est de la Chine, donc sur la Chine côtière, les salaires augmentent. Et il faut donc revenir un petit peu vers l'ouest pour trouver des gens un peu plus pauvres qui accepteront de travailler pour rien, autrement on va encore délocaliser, etc. Enfin, il y a une sorte d'absurdité de cette course au moindre coût et une violence terrible. Puisque, en fait, c'est une transformation, parce que cette idée-là, c'est une transformation de la pauvreté en richesse. Donc, mon maire de cette grande ville imaginaire, qui a des idées tout à fait logiques, qui paraissent absurdes, mais au fond, elles sont extrêmement logiques, voilà, la pauvreté est notre richesse.
Mais comme il ne s'agit pas d'une chronique économique, mais d'un roman, et qu'il y a une sorte, effectivement, un côté un peu épique dans cette histoire-là, peu à peu, il se passe des choses étranges dans cette ville. Alors peut-être que son caractère fantomatique favorise ça. Toujours est-il qu'il y a une piscine dont l'eau inondée d'huile se met à flamber, donc une piscine qui prend feu, enfin l'eau de la piscine qui prend feu. Il y a des attaques de supermarchés effectuées par de mystérieux brabançons qui roulent haillons de la voiture, grand ouvert, et qui débarquent dans les supermarchés avec des pistolets. Voilà. Donc là, on bascule dans quelque chose qui... Alors je sais pas, est-ce qu'on peut dire que c'est de la farce? Est-ce qu'on peut dire...
En fait, alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est totalement réaliste. C'est-à-dire que l'histoire de l'attaque du supermarché avec des Golf GDI, avec des haillons qui se relèvent et des sièges qui se retournent, ça s'est passé en Belgique entre 83 et 85. C'est-à-dire il y a eu une affaire qu'on a appelée les tueurs du Brabant wallon. Ce sont des gens dont on ne sait pas qui c'est. On n'a jamais su qui c'était. Ils étaient une dizaine. Et ils étaient habillés de grands manteaux avec des masques en latex, avec des armes, des véritables armes de guerre, qu'ils avaient cambriolées dans des entrepôts de la gendarmerie belge. Et ils ont attaqué des supermarchés. Ils ont tué des gens dans les rayons, ils ont tué des caissières à leur caisse, ils ont tué ils ont eu un gamin en vélo sur le parking, etc. Et ils piquaient 2 paquets de café et 500 francs belges. Ils ont fait ça, et quand la police arrivait, ils tiraient sur la police, et plusieurs policiers sont morts. Ils avaient modifié leur automobile pour pouvoir justement tirer à travers ce haillon ouvert. Un truc complètement abracadabra, totalement belge. C'est-à-dire à la fois surréaliste et glauque. Et ça a duré 2 ans, il y a eu, je sais pas, une vingtaine de morts, 5 ou 6 attaques, Et ça s'est arrêté. Il existe toujours une cellule de veille dans la gendarmerie belge pour essayer d'avoir des données là-dessus. On ne sait pas, on ne sait rien, on sait pas pourquoi. Alors il y a eu des tas d'idées. C'était des espèces de groupuscules fascistoïdes qui essayaient de faire basculer l'État, de créer une réaction autoritaire de l'État belge. Enfin, il y avait des tas d'interprétations étranges. Bon. On n'a jamais su ce que c'était. Et j'ai toujours eu envie de faire un roman avec ça, mais si on raconte ça de façon réaliste, c'est carrément glauque. C'est-à-dire vraiment, franchement, c'est un côté à la Tarantino, en fait, mais en sérieux. Et c'est, voilà, écrire ça, quand on écrit quelque chose, on est dedans. Donc écrire un truc glauque, c'est une expérience difficile. Mmh. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Mais je vais utiliser ça parce que je trouve que c'est extraordinaire. Et je vais le raconter, mais sous la forme d'une sorte d'épopée grotesque, un peu à la Jérôme Bosch. Avec ces types qui vont circuler dans tous les espaces publics et qui vont détruire de façon grotesque tous les espaces publics. Parce qu'au fond, le problème du libéralisme ou du néolibéralisme, c'est ça, c'est le public, l'espace public, c'est le mal, les services publics, c'est le mal, l'action publique, c'est le mal, donc il faut détruire tout ça pour laisser place, en fait, au pur individu. Donc on a ces espèces de cavaliers de l'apocalypse sur leurs chevaux à bascule qui vont essayer de mettre le chaos dans une ville qui est déjà bien chaotique.
Mmh. Ce que vient de dire Alexis Génie, Claro, cette histoire de gang, là, de Brabançon qui débarque avec la voiture, le haillon de la voiture grand ouvert, c'est presque quelque chose qui aurait pu appartenir à vos romans, à vous. En tout cas, le lien immédiat avec le roman d'Alexis Génie, c'est celui du récit d'une sorte de grande épopée contemporaine, économique, qui passe par un des trois personnages que vous mettez en scène, le premier des trois. Et ça donne son titre d'ailleurs au texte, donc Crash Test, parce que c'est un employé qui est affecté à ce qu'on appelle les crash tests, c'est-à-dire chez les constructeurs automobiles, il y a des gens qui passent leur temps à analyser comment les accidents se déclenchent. Ça, c'est une activité des temps modernes.
Oui, parce que c'est pas sur l'accident justement, c'est sur un accident qu'on va... On va recréer de façon artificielle. Donc effectivement, dans les années 70, presque à 2000, constructeurs automobiles faisaient ça très discrètement parce que c'était pas très glorieux, mais ils récupéraient des cadavres dans les morgues, ils installaient donc ces cadavres au volant des voitures, qui après ils propulsaient contre des murs, etc., dans des tonneaux. Donc il y a un côté, c'est déjà la société du spectacle, mais complètement morbide et clandestine. Et moi, ça m'intéressait de travailler là-dessus, parce que voilà, c'est quelqu'un qui tous les jours doit imaginer un accident, doit imaginer ce qui se passe pour voir ce qui arrive au cadavre, pour améliorer la voiture, pour qu'il y ait un peu moins d'accidents et qu'on puisse vendre un peu plus de voitures. Donc c'est la raison d'état, etc. Donc y a, c'est quand même c'est louable. Mais du coup, ça faisait une répétition de l'accident, une répétition de la mort, c'est-à-dire que c'est des cadavres qui meurent deux fois. Et à la fois, ce crash test, c'est-à-dire on teste une violence, un accident. Donc la violence, a priori, c'est quelque chose de complètement désordonné, là, c'est cadré. Et ça m'intéressait de travailler là-dessus pour, après, ayant donné cette notion un peu différente de l'accident, de la transporter dans d'autres domaines comme la pornographie, le striptease ou la cellule familiale.
Alors, du coup, chez vous, le monde industriel, contrairement à la vision qu'en donne Alexis Génie dans son roman, c'est pas un monde industriel décati, c'est un monde industriel infernal, morbide, violent. Physiquement, oui, violent, d'abord.
Oui, mais quelque chose de très froid.
Froid,
et,
oui.
Voilà, ouais. Il faut imaginer quelqu'un, tous les jours, ils étaient plusieurs à faire ça, il vient, et son boulot, c'est d'installer des morts dans une voiture, et ça rentre dans une logique industrielle. Donc c'est particulier, mais c'est pour... Enfin, moi, je vois ça plutôt comme des métaphores qu'on va faire fonctionner. Après, ce qui m'intéresse, c'est en quoi cet accident contrôlé peut avoir un lien avec, par exemple, la lecture. Est-ce qu'il y a un rapport du lecteur quand il rentre dans un livre? Il peut y avoir une forme de violence, il peut y avoir un choc, à la fois c'est contrôlé. Un crash test, ça fait une lecture, pour moi, c'est aussi un crash test.
C'est une façon de se mettre en situation, d'être sur des moments de point de bascule, de point de rupture, en fait. Parce que dans les trois cas, les trois personnages, que ce soit donc l'homme qui travaille dans l'usine pour tester les voitures, la stripteaseuse ou l'adolescent seul dans sa chambre à lire des BD, c'est toujours des points de rupture.
Oui, parce qu'au bout d'un moment, l'expérimentation sur le crash vous revient en... vous revient en boomerang, pour ainsi dire, et c'est vous qui devenez l'objet de l'accident et vous craquez parce que vous ne pouvez plus continuer ce contrôle du chaos.
Alors cet homme-là, celui qui a pour métier donc de tester les probabilités d'accident, etc., il n'a pas de nom. Il travaille dans des usines qui n'ont pas de nom non plus. Et on est dans des lieux qui sont indéfinis. C'est-à-dire que contrairement à la scène du roman d'Alexis Génie, on ne plante pas de décor, il n'y a pas de décor.
S'il y a un décor, en tout cas,
enfin,
on va droit dedans. Quoi.
Voilà, enfin, c'est ça. Voilà. On fonce dedans, oui, voilà.
Oui, il n'y a pas de nom. Enfin, aucun des personnages n'a de nom. Parce que je voulais instaurer une zone comme ça d'indétermination, d'indécidable. Et comme on ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas les rapports qu'ils ont entre eux. Donc il y a des pistes où on pourrait croire à un moment le type justement craque un peu et prend une semaine de congé. Il va voir un spectacle de striptease. Après, on va nous parler d'une stripteaseuse. Donc on peut se demander est-ce que c'est la même, mais à la fois il n'y a pas une seule stripteaseuse au monde ni un seul homme qui va les voir. Donc il reste du moment qu'on a quitté la route, qu'on est sorti ailleurs, qu'il y a eu craquage. Là on est dans l'indéterminé et toutes les relations sont possibles. Mais c'est pas décidable.
Mais la stripteaseuse, elle a un nom, elle, Melody Bubble.
Elle a aucun nom, c'est-à-dire qu'on lui imagine tous les noms possibles de toutes les stripteaseuses qui sont d'ailleurs des véritables noms de stripteaseuses. On dit ah c'est peut-être Melody Bubbles, non c'est pas elle, non, ça pourrait être voilà. Mm. Au début elle est présentée comme incarnant voilà toute la panoplie des stripteaseuses avec le côté mystérieux etc. Et évidemment c'est une fausse entrée parce que c'est juste une femme et c'est pas du tout le fantasme. Donc une fois qu'on a évacué ce fantasme de la stripteaseuse, elle peut s'avancer en scène, et non pas uniquement pour se dévoiler au regard des hommes, mais pour sortir, en tout cas mentalement, certaines vérités aux hommes.
Là, il y a une phrase qui résume, je pense, très bien le texte, c'est « Quand la stripteaseuse entre en scène, elle pense, au commencement était l'accident, puis aussitôt le sexe. » Autrement dit, tout le texte est bâti sur le rapport Eros-Thanatos. Enfin, ce sont les deux, bien sûr, fils de cette histoire qui... c'est vrai qu'entre les trois personnages, il n'y a pas vraiment de lien, mais il y a celui-ci, quoi.
La question, c'est qu'est-ce que peut un corps ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui devient ? Donc, on a des variations comme ça sur des utilisations un peu... anomales des corps, donc le corps qu'on installe dans mort qu'on installe dans une voiture, le corps quand même très particulier d'une femme qui se dénude mais qui ne se donne pas, donc c'est pas y a une distance par rapport à la sexualité, mais c'est dédoublé aussi par toute une histoire qui est à l'intérieur sur la pornographie, donc c'est encore une autre forme de corps. Et puis il y a le corps de l'adolescent dans sa, on va dire sa maturation, son éducation sexuelle à travers des lectures dans un cadre familial. Donc c'est des moments où voilà où les corps sont confrontés à une violence de toute façon qui est soit grandir, soit périr, soit justement affronter l'autre.
Oui, donc le troisième.
Je ne sais pas si je rends bien compte de la dimension comique du livre.
Tu réussis. Oui, il faut y insister sur la dimension comique. Oui, donc le troisième. Mais les temps modernes sont, voilà, dans vos textes respectifs, on n'a pas encore parlé du texte de Pierre-André Milite, mais bon, ce sont pas, en tout cas. Chez vous deux, ce sont quand même des temps modernes, disons obscurs. Voilà. Si on dit obscur, je ne vais pas trop loin, je ne m'avance pas trop. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le terme tous les deux, si vous pouvez vous l'approprier.
C'est vrai qu'on est plus dans du 20-40 watts, quoi.
Alexis Génie, vous êtes dans quel...
Oui, c'est vrai que c'est... Ouais, alors je dirais, quand j'écrivais le roman, je disais que je faisais mon roman belge, c'est-à-dire sombre mais drôle. Voilà, c'était ça, c'était dans l'esprit de, je sais pas, de Bosch, de James Ensor, de cette espèce d'esprit spécial, à la fois loufoque, drôle et très sombre, mais c'est pas grave d'être sombre tant qu'on est drôle. Enfin voilà, c'est une espèce de caractéristique d'esprit belge que j'adore, c'est une sorte d'humour noir en fait.
Alors, après, on vient à votre texte, mais il y a quand même une grande différence entre vous deux. C'est l'écriture. Autant chez vous, Alexis Génie, il y a de la charge, de la bouffonnerie, de la digression, etc. Autant chez Claro, c'est une écriture au rasoir et c'est vraiment. Voilà. Donc, une façon de raconter les épopées modernes avec des écritures. Enfin, je veux dire, l'écriture de Crash Text, ça pouvait pas être autre chose que cette espèce de langue comme ça, tirée au cordeau, quoi.
Je pense que c'est parce que c'est les matériaux et les motifs qu'on utilise qui produisent, qui génèrent une écriture particulière. Mmh. Pour qu'il y ait une cohérence. À la fois, on peut parler de l'accident de plein de façons, mais bon, des fois, on met un système et on s'y tient.
Ouais, puis moi j'ai toujours été phobique des rasoirs, donc voilà, c'est très inquiétant. Et c'est vrai que l'idée, c'était, enfin, le plaisir en fait d'écrire, c'était justement de faire quelque chose, de faire une écriture avec grosse caisse et cymbales, quoi, d'en rajouter, mais qui est totalement cohérent avec la thématique. Donc voilà. J'ai écrit avec la fanfare municipale tout entière.
Alors, Pierre-André milite avec 1440 minutes, qui est un texte aussi insolite par sa taille, parce que c'est un gros volume, que par l'engagement qu'il suppose, parce que j'imagine que ça a dû être une sacrée entreprise. Il s'agit d'écrire toutes les minutes d'une journée, de minuit 1 à 24 heures, hein, voilà, de faire le tour du cadran, d'où 1440 chroniques du temps qui passe. Donc vous, votre rapport au temps moderne, c'est une espèce de... Alors, est-ce que c'est une course après le temps ou au contraire le désir de le suspendre et de l'arrêter?
Ben, je pense justement ce qui est moderne dans cette histoire-là, c'est que rien ne s'arrête puis on essaye de l'arrêter. Ce qui m'intéresse, ce qui m'interpelle, c'est de dire ce qui est là maintenant, et sitôt qu'il est dit, sitôt qu'il est, il est passé, il n'est plus là. Donc on passe de la nostalgie à l'espérance, mais non, mais la vie, c'est là, maintenant. Et puis, chaque minute, à chaque moment, il y a quelque chose qui se passe. Si on est là pour l'appréhender, pour l'attraper, tant mieux. Si on n'est pas là, les choses se passent quand même. Donc mon idée, c'était d'aller explorer 24 heures d'une journée, mais pas en 24 heures, en quand même 18 mois de travail, chaque minute d'une journée, pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a là maintenant, puis s'il n'y a rien, qu'est-ce qu'il y a dans la tête à Milite, ou qu'est-ce qu'il y a qui peut éventuellement me faire penser ou donner à penser à quelqu'un d'autre qu'à 3h21, ça a été absolument capital pour moi et pour l'autre, celui qui le lit, que... À 3h21, c'était le moment capital de ma vie. Et puis, ben, il y en a eu 1440 comme ça. Mmh. Et ça a été du bonheur, ça a été beaucoup de transpiration, beaucoup de doutes, parce que jamais j'arriverai au bout de cette histoire. Le moyen technique pour y arriver, c'était une contrainte de dire, il y a 6 phrases, et la dernière phrase, c'est moi qui suis là, c'est ma phrase, elle commence par « je ». Je me situe, j'agis, je pense, je dis, je fais. Mais la première phrase, c'est « qu'est-ce qu'il y a là maintenant qui donne à rêver, à imaginer ou à poser sur papier, qu'est-ce qu'il y a là maintenant ?» Elles n'ont pas été écrites de manière chronologique, heureusement. Ce qui fait qu'à des moments, entre 2h et 3h du matin, on est en plein été, puis tout d'un coup on est en plein hiver, ou plus précisément aux heures, 6h du matin ou 18h du soir, en hiver il fait nuit, en été il fait jour, les merles ont d'autres attitudes, les gens ont d'autres attitudes. Alors c'est vrai que comme j'habite à la campagne, et puis que mon atelier d'écriture, mon décor d'écriture est une porte vitrée qui donne sur un pré, sur un talus de vigne, c'est toujours la même chose, mais c'est jamais la même chose. Et puis la bête qui est en train d'écrire, elle n'est jamais pareille.
Alors bien sûr, il a fallu plus d'une minute pour écrire chacune de ces minutes, parce qu'à chaque fois, c'est une véritable petite histoire. C'est-à-dire chaque minute devient tout un petit monde, alors qu'il balaye à peu près tout le registre de ce qu'un regard humain peut capter. Ça va d'histoire d'amour à des motos qui passent, à des vaches, puisque vous dites que vous vivez à la campagne, il y a des vaches dans le pré. Bref, c'est le regard qui va se poser sur une réalité humaine, quoi. Voilà, donc c'est une sorte de chapelet. On peut dire une sorte de chapelet ?
Oui, j'ai un collègue critique qui a dit que c'est le chapelet païen de Milite.
Ah ben voilà.
J'ai trouvé ça très beau. Moi, je l'ai conçu aussi un peu comme un bréviaire où, à n'importe quel moment de la journée, on peut l'ouvrir. Tiens, voilà, 15h52, il y a ça. Et puis, qu'est-ce qui résonne chez moi dans ma vie comme lecteur ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête à Milite ou dans la vie de Milite à ce moment-là ? Et ça, j'ai trouvé intéressant. Par contre, où le grand piège, et moi qui suis plutôt un adepte de la paresse, du texte court, comme ça, je me suis rendu compte à l'usage que j'avais en face de moi 1440 pages blanches. Au contraire d'un roman où on fixe, et puis après les personnages vivent leur vie, et puis on sait plus. Là, moi, il m'a fallu recommencer à chaque fois. Et c'était du bonheur, mais c'était quelquefois un petit peu de l'angoisse et de l'inquiétude. Mais qu'est-ce... Et la première phrase donne le tout. Après, je sais que ça s'arrête après 6 phrases, donc ça va.
Est-ce que ça tient de... Ce projet-là, est-ce qu'il relève de la littérature à contrainte, telle que, par exemple, ont pu la pratiquer les Oulipiens ? Alors là, même s'il n'y a pas la contrainte de se priver de telle ou telle chose, mais il y a la contrainte de s'astreindre au décompte du temps, minute après minute.
Moi, je viens de la poésie. La poésie libre, sans ponctuation, sans comme ça. Et puis finalement, c'est quand même assez éclaté. Ce que j'écris aujourd'hui, maintenant, c'est le plus beau poème, mais celui que je vais écrire demain, ce sera encore le plus beau, mais ils n'ont rien à voir l'un et l'autre. Et ça m'a un petit peu agacé au bout d'un moment de dire, mais finalement, on peut construire quelque chose d'un peu plus compact, d'un peu plus conséquent, en gardant la même forme. Et petit à petit, c'est venu un peu comme ça, dans mon habitude d'écrire, dans ma manière d'écrire, dans ma manière de me supporter quand j'écris, c'est d'établir un cadre. Alors, le premier livre, ça a été « Les 13 lunes » de 2009. Il y a eu un texte à chaque pleine lune. Le deuxième livre, ça a été une structure de texte de 11 lignes que j'ai répété jour après jour jusqu'à la fin du cahier d'écriture. Et puis là, il y a eu vraiment l'attention. Alors, pour moi, l'idée de la contrainte, elle... C'est aussi un oreiller de paresse. Je sais ce que j'ai à faire, j'ai 6 phrases à faire, pas de problème. Mais par contre, dans ces 6 phrases, je peux tout faire. Et j'ai beaucoup plus de liberté que quelqu'un qui s'attelle à un roman où il est obligé d'avoir des personnages qui suivent ou une ville ou quelque chose comme ça. Moi, d'une minute à l'autre, je peux passer d'un univers totalement différent. Il se trouve que, parce que c'est ma vie, parce que c'est un peu par hasard et que c'est comme ça, et où j'habite et avec qui j'habite, il y a des... quelques personnages qui sont récurrents, il y a des animaux qui sont très récurrents chez moi, et les animaux font des choses, pensent à ma place. Alors il y a un peu de l'Oulipo, il y a de la contrainte, et ça, pour moi, c'est une ouverture et c'est pas une fermeture.
C'est une autre forme de contrainte, mais puisque vous parlez de la contrainte romanesque, c'est intéressant parce que Claro, par exemple, vous vous en affranchissez de la contrainte romanesque en n'essayant pas de créer nécessairement de lien entre les 3 personnages, enfin en tout cas dans le récit même. Bon, il y a vaguement la possibilité, on peut imaginer que l'homme qui sort de son usine où il fait des tests, effectivement la prostituée dont il est question, c'est celle qu'il... Mais même pas en fait.
Non, j'essaie de... Voilà, je voulais pas créer des liens qui, dans la mesure où je suis pas quand même très très doué dans l'art de la narration, auraient paru très artificiels, où on serait dit, ah bah finalement, c'est elle, c'est lui, ah mais lui c'est leur fils, ou c'était lui petit... Côté un petit peu voilà artificiel qui peut être sympa, hein. Donc j'ai travaillé plus l'unité sur des phrases, c'est-à-dire qu'il y a des phrases qui reviennent dans les 3 parties et qui évidemment chaque fois sont modifiées, sont altérées comme si elles étaient accidentées, hein, justement elles sont prises des coups, donc en fonction des corps voilà auxquels elles ont attrait, elles changent. Donc c'est-à-dire que le lecteur des fois doit avoir le sentiment, mais très très diffus je pense, de reconnaître, d'avoir comme s'il avait déjà entendu cette phrase, mais comme elle a été modifiée, il peut très bien ne pas, mais il sent quelque chose, donc ça crée voilà, comme créer des vrais faux souvenirs dans le texte, pour que, non pas pour créer une unité, parce que je cherchais pas à faire une unité, mais que c'est dans le motif de la phrase qu'il peut y avoir des retours, enfin différences et répétitions.
Alors que chez vous, Alexis Génie, on est clairement dans la tradition romanesque la plus, j'allais dire la plus classique, mais enfin, oui, la grande tradition romanesque avec, parce qu'on appelle, il y a beaucoup de personnages qui interviennent et qui permettent aussi d'introduire des choses moins, ça permet de glisser une histoire d'amour, ça permet de glisser des histoires d'amitié, voilà, donc il y a aussi plein d'histoires à l'intérieur de cette grande épopée, quoi.
Ouais, mais ça c'est le bonheur de faire un gros roman qui est un peu épais. C'est Thierry là il fait à peu près 400 pages. Il y a une structure générale, une structure de narration générale, et puis après à l'intérieur on peut mettre des tas de choses. C'est comme la structure générale, c'est comme vous savez, c'est ces étagères qu'on met dans son garage, des étagères métalliques comme ça, dans laquelle on met des tas de boîtes qu'on range, et on peut rajouter une boîte, en enlever, etc. C'est extrêmement modulaire. Il y a comme une grande structure modulaire comme ça qui est produite par la grande narration générale qui va d'un bout à l'autre. Mais après, à l'intérieur, on peut rajouter des tas de choses à l'infini. Voilà, j'aurais pu en rajouter 200 pages, en enlever un peu. Enfin bon, voilà, c'est y a toujours moyen de digresser, de rajouter. Et même d'ailleurs, il s'est trouvé que sur la fin, j'ai voulu rajouter des choses et pas de problème, il suffit d'écarter un petit peu, de remettre une scène, etc. Un personnage, tac, 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 et hop, ça tient, c'est assez magique. C'est vrai que moi j'aime bien le. Finalement, je me suis rendu compte que au bout d'un certain temps, que j'aimais bien la figuration. Et j'ai eu, étant jeune, des fantasmes de jeune homme moderne et de faire de la littérature non figurative, c'est-à-dire de faire justement pas vraiment de narration, pas vraiment de personnage, pas vraiment d'intrigue, et si et ça, etc. Bon, alors ça m'a fasciné, ça m'a passionné, mais je crois que ce que je faisais à ce moment-là était assez assommant. Et que maintenant, tout en sachant que ça existe, ça me permet de comprendre comment ça fonctionne, j'ai un plaisir, on va dire, au premier degré aussi, à fabriquer de l'intrigue et de la narration et du personnage.
Il y a une phrase dans votre roman, Alexis Génie, et j'avais envie de vous la proposer à tous les trois pour savoir si, au fond, vous pourriez vous l'approprier pour, en partie, définir les textes que vous avez écrits. Et cette phrase dit, ce roman, alors disons ce texte, décrit l'installation d'un monde nouveau qui désormais sera le nôtre. Est-ce qu'il y a quelque chose de ça dans ce que vous avez alors Alexis Génie, oui, c'est votre phrase, alors j'imagine que oui, mais vous l'assumez. Mais écoutez, si ce monde que vous décrivez sera désormais le nôtre, c'est vrai que c'est un monde sacrément, comment on va dire, un peu désespérant.
Alors, enfin, moi, un commentaire à propos de ça.
Oui.
Bon, ce que j'ai fait, c'est un roman. Un roman, justement, c'est une possibilité de pousser le. Comment dire, de pousser à fond un certain nombre de choses. Le monde est beaucoup plus vivable que celui que j'ai décrit, le monde réel de celui où on est, clairement. Mais il y a des tas de choses inquiétantes dedans que je voulais faire émerger et montrer, qu'on s'en rende compte, de l'aspect inquiétant de ce nombre de choses. Donc là, du coup, c'est vrai que j'ai créé une sorte d'objet sombre et dire, bon, voilà, ce monde-là qui me procure un malaise par certains aspects, voilà, il est inquiétant. Regardez comme c'est inquiétant. Mais ça, c'est... voilà, c'est le roman qui montre ça.
Claro ?
Oui, je retiendrai peut-être le mot installation, c'est-à-dire ce qui est intéressant quand on écrit, c'est voilà, d'installer des choses, des personnages, des tensions, des choses comme ça. Avec ce petit... je sais pas si c'est une distance ou au contraire une proximité, mais de montrer aussi l'installation. Qu'elle est quelque chose peut-être de théâtral complètement assumé, ou en tout cas, ou de des fois un peu machinique, etc. Mais c'est-à-dire qu'en même temps qu'on installe des choses pour le lecteur, on lui dit, regarde, on est en train de les installer. Enfin, voilà, c'est un décor qu'on fabrique comme ça parce qu'on recrée quelque chose d'artificiel, effectivement de théâtral. Hein. C'est peut-être une représentation du monde, quelle que soit l'ampleur qu'il y a à chaque fois, c'est des modules, hein, qu'on essaye de faire fonctionner entre eux.
Pierre-André Milite.
Alors, le côté installation me plaît beaucoup. Le côté monde nouveau aussi, dans le sens où, finalement, on recrée à chaque bout de texte quelque chose qu'on espère qu'il va peut-être se réaliser demain ou qu'on voit se réaliser. dans mes minutes, je me souviens d'une minute où il y a des... Je ne sais plus quel oiseau c'était, c'est ou une pie ou un étourneau sans sonner. En groupe, ils essayent de réinventer la démocratie. Donc tout ça en 6 phrases. Et puis finalement, ils s'aperçoivent qu'ils parlent tous en même temps ou tous d'une tonalité différente. Voilà, c'est un peu ça aussi que raconte Alexis Génie. Moi, ce qui me plaît dans ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est que la pauvreté est une richesse et il y a une dimension aussi, il parlait du travail, la dimension de ceux qui n'ont pas accès au travail, c'est une vraie richesse et une richesse locale. Donc, ils touchent de l'argent de la caisse publique et ils le dépensent ici. Donc, ils vont en vacances dans le square, ils vont, etc. On peut difficilement délocaliser, mais c'est une vraie richesse. Il y avait des chiffres qui étaient sortis en Suisse sur le nombre de personnes qui touchent de l'aide sociale, et ça fait vivre l'économie locale. Donc, c'est la pauvreté est une vraie richesse.
Je ne sais pas si c'est comme ça que vous l'abordez dans le roman.
Non, mais alors.
Alors, ça, c'est.
Oui, non, mais parce que ce n'est pas dit par les mêmes personnes. C'est-à-dire, quand c'est dit par un travers social, là, voilà. C'est vrai que ça a un certain sens. Que, en plus, en fait, c'est ce qui s'appelle la redistribution et c'est ce qui permet aussi de lisser un peu les inégalités et de faire fonctionner la société. Le personnage qui le disait dans mon roman, c'est un personnage totalement cynique. Son slogan, c'est un slogan d'exploitation de la matière humaine. Voilà, c'est donc voilà, c'est pas du tout là, dans la même perspective.
Alors, il y a chez vous, Pierre-André Milly, au milieu d'observations sur l'amour, les motos, les vaches, les insomnies, etc., il y a aussi de la restitution de débats au Parlement. Donc, il y a aussi une dimension. Il y a une dimension, disons, politique, d'un observateur du monde, quoi.
Oui, moi j'ai eu une activité politique, j'ai fait pendant à peu près 20 ans de la politique. Après, quand je me suis aperçu que j'avais sauvé le monde, je pouvais passer à autre chose. Et puis cette autre chose, c'est d'essayer d'écrire des petits bouts de choses qui se passent au quotidien. Et finalement, l'acte politique, il est partout, il est y compris dans mes sans-sonnets qui essayaient d'inventer une démocratie. On a chaque fois une pensée suivie des fois d'un acte qui a un impact sur autre chose. Et l'activité politique en soi, moi, elle m'intéresse parce qu'elle est intéressante. On a d'abord un débat de parole, puis après on essaye d'en faire des lois, puis après ça devient des actes, puis on s'aperçoit que c'est parce qu'on a voulu ou c'est parce que, etc. Donc finalement on est toujours dans ce débat-là, et moi j'ai un plaisir fou à faire que ce soit des vaches ou des sans-sonnets ou d'autres qui ont cette activité politique, parce que un troupeau de vaches, il y a aussi une activité politique, il y a aussi des réglementations, il y a aussi, etc. Donc finalement, on fait ça avec beaucoup de plaisir. Il se trouve qu'au bout du compte, quand on fait une loi, ça a un impact sur des gens. Et puis on ne mesure pas toujours au départ cet impact-là.
Chez vous, Alexis Génie, il y a clairement un propos politique, c'est la guignolade du libéralisme et dont vous dites qu'il absorbe absolument toutes les critiques qu'on lui adresse et dont on ne peut rien dire à moins d'en écrire un roman. Ben voilà, vous en avez fait un roman. Mais c'est ça votre voilà, c'est cette guignolade du libéralisme, c'est ça qui est au cœur quand même de.
Le libéralisme, c'est un truc très complexe parce que il y a diverses dimensions. C'est politique, c'est économique, c'est éthique, c'est philosophique, c'est métaphysique. C'est voilà. En plus, il y a du libéralisme, du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme, etc. Enfin bon, c'est très confus. C'est quasiment impossible d'en discuter puisque si on veut en discuter, on nous rétorquera que c'est pas ça. C'est autre chose. Et que, c'est comme au bon vieux temps du communisme réel. Voilà, c'était toujours autre chose. C'est un sujet qui s'échappe. En plus, les propositions libérales, quasiment les slogans libéraux, semblent être des propositions de bon sens. Ça fait penser à l'histoire de la Grèce. Voilà. Ils ont emprunté, il faut qu'ils remboursent. Que dire contre ça ? Si ce n'est que, dans le cas des États, c'est plus compliqué que ça. Pour essayer de dire quelque chose
de cette galaxie, de cette nébuleuse qu'est le libéralisme, il faut plus qu'une simple argumentation, il faut peut-être en effet quelque chose qui soit aussi foisonnant que le roman. Et dans le... Je me suis amusé à faire des sortes de petits textes, oui. Voilà, qui font deux tiers de page, qui commencent tous par une phrase qui est découpée telle quelle dans la presse, qui est justement une de ces propositions libérales qui a l'air tout à fait pleine de bon sens. Et on se rend compte qu'en poussant un petit peu les choses, en allant jusqu'au bout, que dans cette phrase de bon sens, il y a une violence assez terrible qui est contenue. Et ce travail-là ne peut pas être fait simplement dans l'argumentation, dans le débat, dans la presse, parce que le sujet échappe toujours. Il y faut la littérature pour essayer de saisir la violence qui est en jeu dans toutes ces évidences, ces fausses évidences qui sont véhiculées dans la presse.
Mmh. Est-ce que ce à quoi vous faites allusion sont les éphémérides de Larbi, qui est un des personnages du roman et qui a des réflexions comme ça sur l'esprit d'entreprise, la compétitivité, la pauvreté, la richesse. Enfin, Claro, je ne sais pas si on peut faire une lecture alors politique au sens large du terme, de ces trois histoires et de ces trois destins comme ça qui sont sur le point de basculer, mais qui traduisent dans les trois cas une violence faite... alors vous parliez des corps, là oui, violence faite au corps. Est-ce que pour autant on peut en faire... je ne sais pas.
Mais le livre... de temps en temps se positionne sur une ligne qui est peut-être plus une fissure, etc., et qui est ce rapport comme ça entre le... ça se passe en 72, donc c'est vraiment via, entre autres, le film Gorge Profonde, c'est l'émergence de la pornographie moderne, cinématographique. En même temps, on est à la même période où il y a une forme de... Voilà, on est après 68, il y a une forme de libération sexuelle. Également, il y a des mouvements de libération de la femme. Et donc, le livre, un peu, essaye de voir... C'est bizarre, quand même, que la pornographie se mette à exister comme ça, à exploser, au même moment où il y a la libération féminine, parce que c'est pas évident que la pornographie soit le lieu d'accueil absolu de l'émancipation féminine. Elle paraît même le contraire. Mais leur émergence est concomitante. Comme si on disait... Bon, maintenant, un peu de liberté, on a le droit de voir du cul, etc. Et on ne peut pas critiquer ça parce que sinon, ça serait de la censure, effectivement. Donc, la pornographie gravit un échelon à une gorge profonde, puisque elle était cantonnée jusqu'à présent, on va dire, en gros, les films pornographiques, il y en a depuis les Frères Lumière, mais c'était dans des arrière-salles de bordel, des choses comme ça. Ça restait clandestin. Et tout d'un coup, c'est un des films qui a fait la plus grosse recette mondiale. Les couples allaient le voir ensemble, etc. Tout le monde en parlait. C'est comme sur une histoire d'une femme qui aurait un clitoris au fond de la gorge. Donc c'est quand même bizarre que ça devienne tout d'un coup quelque chose. Donc c'est bien, on a l'impression que ça libère des choses, ça libère des paroles, ce qui est sûrement le cas. À la fois, c'est le fantasme absolu qui reflète une domination masculine. Qui date pas de 72, mais qui s'est pas arrêté en 72, et qui, à mon avis, après il y a des différences peut-être riches-pauvres, des différences aussi de couleur de peau, de choses comme ça, mais je crois que la dernière résistance, la chose qui ne sera jamais lâchée, ça sera par rapport au sexe. Donc on parle beaucoup des problèmes des genres, etc., mais il faut... C'est les hommes qui contrôlent ça, donc ils ne lâcheront jamais ça. C'est eux qui font les lois. Je ne sais même pas si un homme peut être féministe. C'est pas évident. Il peut essayer d'être anti-viriliste, d'arrêter de cautionner cette image de l'homme viril, mais si c'est les hommes qui décident quelle égalité et quelle émancipation la femme peut avoir, ça... Enfin bon, c'est une grosse arnaque, quoi, parce que un homme féministe, en général, c'est plus un plan pour draguer, quoi. Faut se méfier, hein, quand même.
On va retenir. Après, je vous cède la parole si vous avez des questions à poser, mais finalement, en lisant vos trois textes, me disais au fond, ce qui s'en dégage, c'est que le rapport au travail, le rapport au sexe et le rapport au temps sont trois marqueurs forts qui permettent d'identifier ce que sont justement les temps modernes. Ça transite, pas seulement, hein, mais notamment par ça. Par le fait que, oui, les travail, sexe et rapport au temps, c'est assez... Ça le fait rire. Hein.
Non, mais c'est difficile de rebondir sur.
Ouais, oui.
Alors, c'est vrai que bon, probablement le temps, le sexe, le travail, ce sont des choses un peu fondamentales qui structurent toute époque. Hein. Je pense que chez les Sumériens déjà, on devait se poser la question. Alors, ici, il y a quelque chose qui m'a paru aussi problématique dans les temps que nous vivons, c'est que la notion même de travail semble vaciller, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un travail, qu'est-ce que c'est que travailler, ça veut dire quoi travailler. Ça a des conséquences très pratiques. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un métier ? Est-ce qu'il est sage d'apprendre un métier à ses enfants ? Est-ce que dans l'avenir, être salarié quelque part, c'est pas les pousser dans quelque chose qui est de l'ordre de l'esclavage ? Est-ce que finalement, la vraie façon de gagner de l'argent maintenant, c'est faire des affaires et non pas travailler, etc. Enfin bon, c'est la notion de travail qui est quand même structurée nos sociétés. Alors avec toute une moralisation de la notion de travail, c'est clair, est en train de se dissoudre. Et ça devient très compliqué à comprendre ce que ça veut dire que travailler. On commence à ne plus bien savoir ce que c'est. Et probablement aussi que selon les différentes couches sociales, ça n'a pas du tout le même sens. Et travailler veut dire autre chose. Donc voilà, c'est une interrogation. Voilà, ce livre aussi essaye de m'interroger moi-même sur ce que c'est que l'évolution de ce que c'est une individualité, un homme, une activité maintenant dans un monde qui est en fait assez différent de celui que j'ai connu quand j'étais gamin.
Oui, Pierre-André Millet.
Effectivement, cette notion du temps et du travail et de la sexualité, c'est quelque chose aussi de permanent. Avec l'âge qui avance, moi, je sais que mon temps est de plus en plus compté, donc j'ai de plus en plus envie de le mesurer. Mon rapport au travail change, étant donné que, si tout va bien, d'ici 4-5 ans, j'aurai plus à me poser la question du travail. La question de la sexualité qui intervient... peut-être un petit peu plus quand il s'agit de procréer, puisque c'était un petit peu ça que biologiquement on avait été prévu, maintenant on en fait d'autres choses. C'est trois choses qui sont mêlées, mais qui se distendent en fonction de la vie de chacun, ou qui se rétrécissent en fonction de la vie de chacun, et ce regard que j'ai, moi, sur le travail, sur mon travail. Moi, je suis assez content de ne plus avoir à me poser de questions sur qu'est-ce que sera ma carrière professionnelle. Je n'ai jamais eu une envie de carrière professionnelle, mais c'est quand même quelque chose qu'on demande à des ados de choisir un métier en sachant très bien qu'ils ne le pratiqueront pas ou différemment. Ça doit être absolument insupportable. Moi, j'aspire un petit peu à plus de sérénité, puis je peux regarder mon temps qui passe comme ça. Regarder ma sexualité, regarder mon regard du travail et le temps. Et ça, je trouve assez, assez moderne comme histoire.
Claro.
Sur ma sexualité, oui.
Ouais, des révélations.
Ça peut être aussi la relation au travail. C'est au choix. Hein. Non, c'est...
Non, mais c'est très juste ce que dit Alexis sur le travail. Pendant que tu disais ça, je me demandais, par exemple, est-ce que là, ce qu'on fait, on peut considérer ça comme du travail ?
Ouais.
Quels sont les critères ? Est-ce qu'il faut être payé pour que ce soit du travail ? Est-ce que la parole est du travail ? Quelles sont les compétences qui font que... Voilà.
Est-ce que l'écriture est du travail ?
Oui, ça c'est sûr.
Ah oui.
Ça, c'est sûr. Mais c'est des questions intéressantes.
Mais c'est autre chose aussi.
C'est vrai que l'individu s'étant toujours, en tout cas fantasmatiquement, on l'a toujours obligé à être lié à un métier. Hein. Autrefois, souvent, on faisait le même métier toute sa vie. Enfin... Heureusement, il y avait les guerres pour un peu faire tourner les tables. Mais maintenant, c'est plus le cas. On est en train de le comprendre. C'est pas juste parce qu'il y a du chômage ou du non-emploi, mais c'est que la notion. Donc ça casse la notion finalement d'individu. Alors après, on vous dit, c'est bien comme ça, tu pourras faire 3-4 métiers dans ta vie. Enfin, Bon. Déjà, un, ça va être dur, donc 3-4, c'est pas évident. Alors, est-ce que après, c'est bon, les rapports sexualité, etc. Je trouve que c'est quand même des domaines très, 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 très différents. Enfin, on peut pas tout mettre en rapport, même si effectivement le sexe est considéré comme un travail, mais ça c'est depuis toujours. Enfin, le sexe pour les femmes. Les hommes, bizarrement, ne sont pas trop là, quoi.
Bien, mais je vous propose d'ouvrir un peu la conversation et d'accueillir vos remarques ou vos questions, vos interrogations, ou ce que vous voudrez, qui sont les bienvenus. Voilà. Oui, monsieur. Alors, il y a un micro, peut-être prenez-le parce que...
Juste une question pour Claro, juste pour rebondir sur la notion de travail. Dans votre travail, pour le coup, du blog, le clavier Gannibal, vous le considérez comment par rapport à cette notion de travail, justement ?
Ah oui, j'ai oublié de dire, de citer le blog tout à l'heure.
Bah, c'est un travail critique. Donc, ça me permet de rajouter une dimension... à ce que je fais, de pouvoir tester une autre forme d'écriture et d'essayer de voir, voilà, si dans le... Parce qu'on adopte un point de vue critique, même des fois satirique, avec toute la mauvaise foi qui peut y avoir derrière, est-ce qu'on peut continuer à faire un travail d'écriture dans la critique ? Parce que c'est vrai que c'est un peu ce qui peut désoler dans le... entre guillemets, la littérature critique, c'est que c'est à peine de la critique et sûrement pas de la littérature, comme si c'était pas la peine de faire un travail d'écriture quand c'était pour critiquer. Donc moi, je me suis dit, après tout, je peux peut-être parler d'un bouquin, déjà parler de l'écriture du livre au lieu de parler de son histoire et d'essayer d'en parler en faisant ce travail d'écriture. Mais il faut que je l'invente, puisque je suis pas critique, je suis pas essayiste, donc je sais faire des choses de fiction. Voilà, à travers le blog, j'essaye de voir comment on peut s'inventer critique littéraire, mais au sens où pas parce que la critique est littéraire, pas uniquement parce que son objet l'est. Je sais pas si c'est très clair.
Est-ce qu'il y a une autre intervention ou question ? Non ? Bon, même. Oui ?
Est-ce que l'un ou l'autre aurait pu adopter le principe du dernier ouvrage ? Est-ce que vous auriez pu faire 1440 minutes ? Est-ce que vous auriez pu faire...
pour Claro et Alexigénie ? Ouais.
Ouais. Alors, ouais, je crois, oui. Comment dire, parce que même si maintenant j'ai adopté quelque chose qui est de l'ordre du, en effet, de la narration classique, ça me fascine toujours le formalisme, et au sens intéressant du terme, et j'ai toujours une fascination pour les machines comme ça, les machines d'écriture, même si maintenant je me sens pas à l'aise dedans, mais je comprends comment ça marche, et ça me fascine et ça me plaît, et ça, voilà, donc oui, tout à fait, même si je le ferais pas, j'aurais pu.
Ah oui, moi je fais la suite quand vous voulez. Hein.
Deuxième jour.
Les 1440 jour, minutes suite.
Non, mais c'est génial parce que c'est les... Enfin, les contraintes, il y en a... On ne peut pas écrire sans contrainte. Si vous décidez d'écrire et vous avez décidé de dire « je », bah, vous avez une contrainte. Si vous décidez que c'est un roman, que c'est au passé, bah, c'est une contrainte grammaticale. À quelques niveaux qu'on situe dans la littérature, on a des contraintes plus ou moins fortes, etc. Et l'intérêt de la contrainte, c'est déjà, elle n'est pas... Elle peut exister sans être visible. Hein. On se fait des contraintes qui sont invisibles, qui nous servent à produire. Après, et puis il y a des contraintes qui sont exhibées, montrées, mises en scène, fonctionnelles comme ça. Et on s'aperçoit très vite de cette chose qui est jubilatoire, c'est que la contrainte crée de la liberté. C'est un espace qui, justement, va en produire au lieu de la confiner.
Vous approuvez sur le fait que la contrainte crée de la liberté ?
Oui, alors là, je pense que j'ai posé un modèle qui est tout simple. 6 phrases, la dernière commence par « je », donc chacun peut écrire ces 1440 minutes, ou même plus. C'est pas un problème, mais ça risque d'être intéressant. Moi, je me sens un petit peu très beaucoup maladroit face à un roman de la taille des romans de génie. c'est, pour moi, c'est l'Himalaya. Puis je suis même pas un montagnard. Je suis un alpin, je suis pas un montagnard. Donc c'est quelque chose de, voilà. Heureusement que ça existe, mais que c'est pas à moi à le faire.
C'est un Himalaya belge.
L'écriture de.
Oui, c'est ça, c'est l'Himalaya belge.
C'est l'Ardenne.
Là, oui.
L'écriture de Claro m'interpelle beaucoup et j'ai vraiment envie d'aller. Je connais pas assez. Ça, j'ai envie d'aller me confronter à tout ça et ça. Voilà, il y a des nouvelles formes ou des formes un peu décalées ou de manières d'écrire qui sont intéressantes et qu'il faut aller explorer aussi. Mais je pense qu'il faut aussi rester dans le grand roman qui a plein de tiroirs, plein de choses comme ça qui permet aux gens de rêver un moment, de passer un bon moment, d'être confronté à la réalité de l'histoire dans laquelle je m'inscris, je vis. Et ça, le roman est assez fort pour faire ça.
Bien, mais je vous renvoie au texte. Crash Test donc, de Claro, c'est chez Actes Sud. La nuit de Wallenham, je crois que je prononce un peu mieux que tout à l'heure, Alexis Génie, c'est chez Gallimard. Et les 1400 minutes de Pierre-André Milite, c'est aux éditions... J'ai dit combien ?
Vous en avez sucré 40.
J'en ai sucré 40, j'ai dit quoi ?
Mais c'est
1440.
C'est celle que vous devrez faire.
C'est celle que je vais, voilà, promis pour la prochaine fois. C'est aux éditions D'autre part. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Et...